crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons ensemble une peinture intitulée ou baptisée « Portrait de Guillaume Apollinaire », parfois rebaptisée « Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire », réalisée vers 1914 par l'artiste Giorgio De Chirico et conservée au Centre Georges Pompidou. Elle est en ce moment visible dans l'exposition, stupéfiante exposition, « Apollinaire, le regard du poète » qui se déroule jusqu'au 18 juillet au Musée de l'Orangerie à Paris. Le propos de cette exposition est de manifester l'importance déterminante qu'a pu avoir pour son époque le regard de ce poète immense, critique, qui, peut-être comme Baudelaire ou Mallarmé en leur temps, eut une influence déterminante, chaleureuse, enthousiaste sur la création de son époque. Poète, critique, découvreur des arts africains, ami des artistes, Apollinaire s'est révélé un acteur central de la révolution esthétique qui donne naissance à l'art moderne.
Non content d'appuyer les entreprises artistiques les plus audacieuses de son temps, il avait éprouvé le besoin de s'intégrer à elles, de mettre à leur service tout ce dont il disposait de haut savoir, d'ardeur et de rayon. Il a situé, une fois pour toutes, la démarche d'un Matisse, d'un Derain, d'un Picasso, d'un Chirico, au moyen d'instruments d'arpentage mental, comme on n'en avait plus vu depuis Baudelaire.
André Breton, 1952.
Nous sentira beaucoup le lac-pain, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent.
Vous entendiez la voix de Guillaume Apollinaire. Il s'agit aujourd'hui donc d'un tableau vertical en trois teintes, vert, brun et beige. Au premier plan, un buste qui pourrait être de marbre, de style classique. Un personnage masculin, avec une calvitie légère, portant de curieuses lunettes noires sans branches. Auprès de lui, une stèle qui semble en pierre elle aussi et qui porte en bas-relief deux emblèmes, un poisson tête en haut et une coquille Saint-Jacques. Ces deux éléments, traités avec un boursouflement légèrement irréaliste, semblent évoquer des moules à pâtisserie. Derrière la colonne qui les porte en surplomb au-dessus de l'homme à lunettes, se découpant sur un ciel vert bouteille, une silhouette d'homme coupée à mi-corps par l'architecture. Son nez est effilé et un double menton, légèrement galoché qui s'effondre en cascade, interrompu par la ligne de l'épaule. Trois éléments remarquables apparaissent sur cet inquiétant personnage, dont le premier est à l'origine de sa légende. Sur la tempe, en effet, apparaît un trait blanc en cercle qui évoque une cible. Sur son épaule, un trait souligne la piqûre de la veste et un clou est simulé dans l'articulation de la clavicule. Les deux présences invoquées par le peintre, qui n'en sont pas puisque ombre comme sculpture ne sont que des semblances, et comme elles sont peintes, ce ne sont que des apparitions d'apparence. Les deux figures, donc, sont superposées, séparées par la béance d'une sorte de lucarne, construite par la perspective étrangement exagérée de l'architecture. Ce serait donc le portrait de Guillaume Apollinaire, qui fut considéré comme prémonitoire, puisque réalisé en 1914, il semble prophétiser la blessure à la tempe qu'un éclat de but lui infligera 3 ans plus tard, et qui obligera à le trépaner. Ce tableau a été choisi dans l'atelier et offert par Chirico à Apollinaire, qui ne le récupérera qu'en 1917. Il n'est pas le portrait d'Apollinaire, mais un portrait qui a été préempté par le poète pour en faire un équivalent de lui-même par le pouvoir de métamorphose dont celui-ci forcément dispose.
Après le salon d'automne, qui était en automne, au printemps, j'ai exposé au salon des indépendants. J'ai envoyé 4 tableaux, mais là, il n'y avait pas de jury. on payait une certaine somme et on vous accrochait les tableaux au mur de l'exposition. C'est après les indépendants que de nouveau quelqu'un m'avait dit qu'il fallait connaître Apollinaire parce que c'était lui qui encourageait les jeunes et tout ça. Alors, je me souviens ni où ni par qui j'ai connu Apollinaire. Je sais qu'un jour, je me suis trouvé dans sa maison, boulevard Saint-Germain. Il recevait, je crois, le samedi après-midi, vers 6 heures, comme ça. Il y avait Max Jacob. Il avait une façon de parler un peu comme ça, narquoise, un peu comme les chansonniers de Montmartre quand ils circulent entre les tables des clients en se moquant d'eux.
Vous entendiez la voix si caractéristique de Giorgio Di Chirico qui racontait sa rencontre avec Apollinaire au Salon d'automne de 1912. Et avant de parler de cette rencontre, avant de parler de ce tableau, je voudrais vous présenter mon invité. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Laurence Descartes. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Ça fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de parler avec vous de cette merveille, ce tableau merveilleux, mais aussi de ce personnage tellement décisif qu'est Apollinaire. Décisif ?
Décisif.
J'exagère
oui.
Pas, non ?
Oui, je pense. Oui, je crois qu'il était peut-être un peu sous-estimé jusqu'à maintenant, en tout cas par les historiens d'art, qui ont souvent un peu négligé son rôle de critique et la clairvoyance, au fond, qu'il a eue par rapport aux avant-gardes des 15 premières années du siècle.
Vous savez que cette émission est pour moi aussi une pénitence, parce qu'il m'est arrivé de dire à une émission, il y a une quinzaine d'années, justement pour rejoindre ce que vous dites sur les historiens d'art, que c'était pas très important la critique d'art d'Apollinaire. Quelle erreur j'avais fait ? Et depuis que je m'y suis replongé, depuis quelques années, heureusement, je me rends compte du personnage immense que c'est.
Oui, oui, oui. Ce qu'on lui a beaucoup reproché, c'est cet éclectisme, au fond, cette vision extrêmement large qui lui fait voir le cubisme, j'allais dire, sous toutes ses facettes. Chose qui, évidemment, a été balayée par une certaine histoire de l'art plus dogmatique, plus puriste, en quelque sorte, notamment édictée autour de Kahn-Weller, avec la vision très puriste du cubisme, du tandem Braque, évidemment, Picasso. Bon, Apollinaire est quelqu'un qui a un regard complètement décloisonné et c'est ce qui en fait peut-être aujourd'hui notre contemporain aussi, c'est ce qui fait aussi que c'est passionnant de le relire et de le re-regarder, si je puis dire, ou de regarder les avant-gardes à nouveau du début du XXe siècle à travers son choix au fond.
Alors on va faire ça tous les deux, ça va me passionner de vous écouter. Alors je dis pour nos auditeurs que vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de l'Orangerie, vous êtes la commissaire générale de cette exposition dédiée à Apollinaire et son regard sur l'art qui a lieu en ce moment au musée de l'Orangerie. Et vous avez été auparavant commissaire de nombreuses et célèbres expositions, notamment Vuillard au Grand Palais, dont je me souviens avec admiration, co-commissaire de Gustave Courbet en 2008, là encore c'était un gros événement, Jean-Léon Gérôme en 2010 et l'extraordinaire Attaquer le soleil au musée d'Orsay en 2014.
Oui, avec Annie Lebrun,
une belle aventure. Dont nous avions fait trois émissions avec elle, c'était absolument fantastique. Alors, vous dites que le spectre, au fond, de Guillaume Apollinaire par rapport aux arts était très large. Alors peut-être que je rappellerai simplement à nos auditeurs que Guillaume Apollinaire, son action sur l'art, c'est au fond très peu de temps.
Très peu de temps, c'est à peine 15 ans. C'est-à-dire que ça commence aux alentours de 1902-1903 avec les premières chroniques, qui sont plutôt liées d'ailleurs à des voyages en Europe, notamment en Allemagne. Et puis les premières rencontres avec les artistes, c'est au fond autour du fauvisme, la première avant-garde du XXe siècle.
Donc, c'est vers 1904-1905,
voilà,
c'est Vlaminck de Rhin.
La Manque de Rhin autour de Achatou petit à petit le cercle s'élargit, rencontre évidemment décisive en 1905 avec Picasso.
Ça a été une amitié absolue, c'était fraternel, une
totalement fraternelle, ouais. Avec la passion qui va avec ce genre d'amitié, donc avec des hauts, des bas, une vraie fraternité poétique entre les deux hommes, un tandem absolument essentiel là aussi pour comprendre les premières années de Picasso et aussi l'évolution de la poésie d'Apollinaire, parce qu'évidemment, on ne peut pas séparer l'activité du critique de celui, évidemment, de la création du poète.
Moi tout aussi, je suis peintre, dira-t-il plus
tard. Et moi aussi, je suis peintre, absolument. Donc, il revendique, au fond, cette passion, comme aurait dit Baudelaire, pour les images. Il y a vraiment ça chez Apollinaire. Et dans la poésie d'Apollinaire, c'est au fond peut-être la première poésie au XXe siècle qui est marquée par cette présence de l'image. On a là quelque chose de fondamental.
Si je vous entends bien, vous suggérez que la relation d'Apollinaire à la peinture peinture a fait exploser son écriture ?
Je pense qu'elle l'a stimulé. Elle l'a stimulé. Et la relation, notamment avec Picasso, est absolument fondamentale. On ne comprend pas, si vous voulez, la révolution que représente un recueil comme Alcool, donc publié en 1913, absolument sans ponctuation, avec un jeu de libre association absolument prodigieux, notamment l'ouverture, le grand poème Zone, qui est un des grands manifestes de la modernité. Si on ne comprend pas le regard qu'a eu Apollinaire sur le cubisme et sur la déconstruction que représente le cubisme, on ne comprend pas Caligramme si on ne comprend pas effectivement qu'il a regardé intensément la question cubiste. Voilà, pour prendre deux exemples très simples, là on voit combien tout est imbriqué. Et avec de Quirico, il y a aussi des passages très évidents entre l'univers, j'allais dire, pictural de Quirico et quelques éléments de la poésie d'Apollinaire, qui bouge aussi au contact de Quirico.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Breton, quand Breton parle de l'arpenteur mental qui est Apollinaire, je pense qu'on est tous d'accord, mais lorsqu'il fait la relation avec Baudelaire, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors c'est compliqué, la comparaison avec Baudelaire, je l'ai un petit peu abordé dans le catalogue de l'exposition, parce qu'il est évident que pour beaucoup, ce sont deux moments essentiels de la modernité. Baudelaire qui définit ce qu'est cet appel au contemporain, au fond, le fameux « il faut être de son temps » qui court pendant tout le 19e siècle, cet appel à l'éphémère, à ce qui n'est que l'esprit d'un instant. Et évidemment, quand on regarde le travail d'Apollinaire, on voit immédiatement des parallèles. La question, c'est une réactualisation d'un certain point de vue de l'appel baudelairien, avec cette question passionnante toujours pour la nouveauté, cet appel à la nouveauté, constamment. Donc, en surface, j'allais dire, les choses sont assez claires. Ça l'est moins quand on regarde de près, parce que, d'un certain point de vue, le travail d'Apollinaire est basé sur une empathie très immédiate à l'égard des artistes. Au fond, il ne parle que des artistes qu'il aime et qu'il intéresse, des œuvres qui le touchent dans ce qu'il voit au quotidien, dans toutes les galeries, les salons de Paris. Alors que, par exemple, Baudelaire est quelqu'un d'absolument génial dans une entreprise de destruction aussi et de critique extrêmement, extrêmement violente. Donc déjà, on a deux tons, deux approches de la critique d'art quand même très, très différentes.
Oui, Apollinaire célèbre beaucoup plus que Baudelaire,
oui,
en fait.
Absolument, hein, absolument. Quand on est dans vraiment l'empathie, la connivence, au fond, avec les artistes. Il recherche ce contact, il est constamment en échange avec les artistes qui l'intéressent. Ce qui n'est pas forcément le cas de Baudelaire.
On a l'impression que, à cette période 1905, 1915, 1917, il y a un espoir que la peinture et la poésie soient absolument congénitalement liées.
Oui. Il y a un moment assez de grâce, en fait. Alors que par ailleurs l'Europe rentre dans un chaos absolu et dans une barbarie totale qui sera celle d'une partie du XXe siècle, il y a effectivement un moment où poète et peintre se rencontrent, et c'est là où la figure d'Apollinaire, mais celle de Sandrart aussi, celle de Larbaud dans une moindre mesure, est absolument déterminante. Là aussi, on revient à des fondamentaux de l'art occidental, le fameux ut pictura poesis. Hein, on revient à cette idée de correspondance entre les arts, et qui se réactualise autour de cette question de la nouveauté, du moderne, d'un monde qui change, d'un spectre de référence qui éclate complètement, de hiérarchie qui éclate. Et c'est là où Apollinaire orchestre, si je puis dire, tout ça avec une grâce infinie.
Oui, parce qu'il va beaucoup plus loin que la simple admiration de ses artistes contemporains, les grands peintres modernes qu'il a découverts et qu'il a accompagnés plutôt que découverts. C'est aussi l'art africain, l'art populaire,
absolument,
une curiosité illimitée.
Le cinéma est un des premiers à dire que le cinéma va être une question fondamentale pour le XXe siècle.
Les affiches de publicité, son goût pour Capiello.
Voilà, les spectacles de cirque, tout ça le passionne. Il ne propose pas de hiérarchie, il ne veut pas choisir. Il veut pouvoir aimer les uns et les autres, pouvoir passer de l'un à l'autre, pouvoir en quelque sorte coller les uns aux autres. Si cette idée du collage aussi, du glissement, j'allais dire, d'un monde à un autre, ça l'intéresse énormément. Et il le recherche en permanence, d'un certain point de vue.
Alors, Guillaume Apollinaire, c'est aussi une admiration pour Quirico, qu'il a rencontré dès 1912, nous le disions. Donc écoutons à présent les premières impressions de Guillaume Apollinaire sur Giorgio de Quirico, suivi d'un texte de l'écrivain italien Soffici à propos de Quirico, qu'Apollinaire reprendra le 14 juillet 1914 dans la revue Paris Journal.
Monsieur de Quirico, peintre inhabile et très doué. Curieux paysage, plein d'inventions nouvelles, d'une forte architecture et d'une grande sensibilité. Guillaume Apollinaire, Salon d'automne 1913. La peinture de De Chirico n'est pas de la peinture dans l'acception que l'on donne aujourd'hui à ce mot. On pourrait la définir comme l'écriture des songes. Au moyen de fuites presque infinies, d'arcades et de façades, de grandes lignes directes, de masses démesurées de couleurs simples, de clairs et d'obscurs presque funèbres, il parvient à exprimer cette impression d'immensité, de solitude, d'immobilité, de stagnation que provoquent parfois dans notre âme endormie certains spectacles réfléchis à l'état de souvenir. Ardengo Sofici, revue La Serba, citée par Guillaume Apollinaire dans Paris Journal le 14 juillet 1914.
Vous êtes toujours sur France Culture et nous sommes avec Laurence Descartes, la commissaire de l'exposition sur Apollinaire qui se trouve en ce moment à l'Orangerie à Paris. Et nous écoutions les premières impressions de Guillaume Apollinaire sur Giorgio Di Chirico puisque nous avons l'intention de commenter l'un de ses tableaux qui est justement le portrait de Guillaume Apollinaire. Laurence Descartes, il y a une proposition que je trouve très étrange dans le texte qu'Apollinaire a formulé sur Chirico, c'est « peintre inhabile et très doué ».
Oui, la formule est magnifique et très étrange. Alors, ce qu'on peut penser ce que dit Apollinaire, c'est qu'il voit une forme de peinture hors norme qui échappe en quelque sorte à une description classique qui ne rentre dans aucune case, au fond. Et dans un premier temps, Apollinaire le redira dans un texte qui sera publié en 1919, il associe dans son esprit la découverte de Chirico à la découverte de Rousseau aussi, c'est-à-dire cette même, tout d'un coup, cette déstabilisation en quelque sorte du regard, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a du mal à cerner, où les références sont difficiles à retrouver.
Il faut dire effectivement, Apollinaire rencontre le douanier Rousseau en 1906, présenté par Jarry, je crois.
Absolument, oui, le lien se fait par Jarry, et le coup de foudre n'est pas immédiat.
Oui, il croit d'abord que c'est une peinture naïve, en fait.
Absolument, sans grand intérêt, et il en découvre la complexité peu à peu, jusqu'à célébrer effectivement l'univers de Rousseau. Et puis, après avoir fait cette comparaison entre De Chirico et Rousseau, Apollinaire revient un peu sur ses pas et dit non, finalement, c'est pas du tout la même chose parce que De Chirico, il sait très bien ce qu'il veut. Il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. C'est un intellectuel d'un certain point de vue et il a plusieurs manières de voir et de peindre. Il a un jour cette expression dans un texte un peu plus tardif et il revient sur deux notions, à mon avis, essentielles pour aborder l'univers de Chirico. C'est la question de la métaphysique. Là, on est en pleine période métaphysique de Chirico. Et la question de l'énigme.
Il utilisera tout de suite ce mot, d'ailleurs. Absolument. Dès la première critique, il parle de métaphysique.
Il parle de paysage métaphysique. Et puis, il revient sur le mot de l'énigme aussi, qui est aussi très, très dans le vocabulaire de Chirico à l'époque.
Qui apparaît dans beaucoup de titres de Chirico à cette époque-là.
Absolument. Soir, et avec l'idée que le tableau est en quelque sorte, ne se lit pas directement, est à décrypter, est à découvrir et presque à inventer aussi. Ça passionne Apollinaire, qui reviendra sur cette question de l'énigme par le biais de la notion de surprise qui l'intéresse chez De Chirico, c'est-à-dire qu'on est constamment dans un terrain un peu mouvant, en quelque sorte, qu'il faut lire, qu'il faut décrypter, et qui est surtout un champ d'inspiration poétique infinie aussi pour Apollinaire.
Parce que je crois me souvenir que Apollinaire avait mentionné que c'était un des seuls peintres de sa génération, Chirico, qui échappait au cubisme.
Absolument. Et voilà. À l'influence française. C'est le seul peintre de cette génération qui est tout à fait hors de l'influence française. Et il cite explicitement Matisse et Picasso, d'ailleurs, comme les deux grands géants déjà. Et vous voyez, on est en 1913 ou 1912. Pour Apollinaire, il est évident que les deux grands peintres français, c'est Matisse et Picasso à ce moment-là. Et De Chirico arrive d'un autre horizon. Et réactive surtout par le biais d'une grande culture, notamment, on le sait, philosophique allemande, sa lecture de Nietzsche, réactive la question de la mythologie, du mythe. Et ça, c'est très intéressant, évidemment, aussi pour Apollinaire, parce que toutes ces méditations autour, notamment de la figure d'Orphée, qui alimente, évidemment, qui est un des substrats, j'allais dire, littéraires, poétiques, philosophiques de Quirico, rencontrent aussi le questionnement poétique d'Apollinaire à cette époque. N'oublions pas qu'il publie Le Bestiaire, ou Le Cortège d'Orphée en 1911, illustré par Dufy, qui devait être au départ, d'ailleurs, illustré par Picasso.
Mais qui avait fait une esquisse, mais ça n'avait pas abouti.
Voilà, ça n'a pas abouti, ouais. Comme souvent les projets, d'ailleurs, entre Apollinaire et Picasso. Et donc, on a là une de méditation en quelque sorte autour de cette question du poète qui réfléchit sur la question de la création, qui est l'homme qui anime le monde animal par exemple avec Orphée, qui enchante la nature, qui se traduit différemment si vous voulez en quelque sorte dans l'univers pictural de Quirico et dans la poésie d'Apollinaire. Mais là il y a une rencontre assez passionnante.
Orphée est un appel au mythe qui va revenir très souvent dans le travail d'Apollinaire, comme s'il ne faisait pas de coupure entre le passé et le présent,
oui.
Et son présent.
Oui, Apollinaire n'est pas un homme de la table rase, n'est pas un homme de la rupture. C'est un homme merveilleusement cultivé, un homme qui se érudit, qui se passionne pour les textes anciens, qui se passionne pour le vieux fond, j'allais dire, humaniste, de culture humaniste de l'Europe.
Y compris médiéval.
Et médiéval, et absolument. Voilà. Et aussi pour le substrat gréco-latin. Et évidemment, ça, c'est quelque chose que l'on retrouve très directement chez De Quirico, qui là aussi réactive tous ces mythes, toutes ces mythologies, crée des mythologies modernes. Et on le voit notamment par le biais des références à l'architecture et évidemment à la sculpture. Et dans le portrait dit prémonitoire d'Apollinaire, il y a cette extraordinaire figure que vous avez décrit au premier plan, qui pourrait être une iconographie d'Orphée, sauf qu'on n'a pas d'iconographie d'Orphée. Elle n'existe pas dans le corpus gréco-romain classique. Donc c'est une invention, sans doute une sorte de Vénus de Milo, parce que les traits du visage sont en fait à peu près ceux de la Vénus.
C'est-à-dire qu'il y a une androgynie.
Virilisée, en quelque sorte, ouais. Enfin, avec très très peu de cheveux, et puis cette idée géniale, évidemment, des lunettes noires. Donc
qu'est-ce qu'on sait de ce tableau? Nous parlons donc toujours de ce portrait d'Apollinaire par Giorgio Di Chirico. Qu'est-ce qu'on sait?
Il est vraiment, je pense, peint comme un portrait, effectivement, ou en tout cas un hommage, plus exactement, de Chirico à Apollinaire, De Chirico est très touché par le soutien que lui apporte Apollinaire. Il faut vraiment rappeler que Apollinaire est pratiquement le seul, ou le plus ardent des défenseurs de Quirico à ce moment-là. Il croit dans cette nouvelle univers pictural, n'arrête pas de l'écrire au fil de ses chroniques.
Il convainc Paul Guillaume, le grand galeriste.
Il convainc son ami Paul Guillaume de prendre de Quirico sous contrat et de l'exposer très régulièrement. Il y a une volonté là de Quirico qui fréquente, comme il le rappelait dans ses souvenirs, les samedis donc du 202 boulevard Saint-Germain chez Apollinaire. Il y a une volonté de rendre hommage à ce soutien, avec probablement cette figure dite de l'homme cible. Donc cette silhouette à l'arrière-plan qui évoque donc la présence physique du poète dans cet univers complètement métaphysique, métaphorique.
Auteurs ne sont pas tous d'accord sur le fait de savoir si ce tableau était effectivement dans l'esprit de Giorgio Di Chirico un portrait d'Apollinaire, ou n'importe quel tableau qu'Apollinaire se serait approprié ou auquel il se serait identifié.
Oui, il y a effectivement un doute qui subsiste. Néanmoins, quand on regarde la correspondance des deux hommes et l'intérêt quand même autour de ce tableau, il semble bien qu'il y ait en tout cas un geste de Quirico à l'égard d'Apollinaire. Alors après, portrait, hommage.
Mais en tout cas, de l'absolu du poète, Orphée voilà, comme le poète absolu.
Association en tout cas d'Apollinaire avec l'absolu de la poésie et de l'absolu. Celui effectivement du poète que peut être Orphée.
Ouais. Alors, ce personnage pétrifié avec ses lunettes noires, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ces lunettes noires?
On peut effectivement le voir comme une figure du poète, comme une figure d'Orphée.
Est-ce que c'est un voyant?
C'est l'idée du poète voyant, effectivement, du poète qui a en quelque sorte la prescience aussi de ce qui va compter, de ce qui va advenir.
Alors c'est le prophète.
C'est le prophète. C'est la figure effectivement très prophétique et qui, dans le cas d'ailleurs d'Apollinaire à l'égard de Quirico, est très juste parce qu'il en décrypte le dire l'univers extraordinairement tôt, et quand on va voir la fortune là aussi presque mythique de notamment de ce tableau dans le surréalisme, ça devient évidemment passionnant, parce que là c'est une série de mises en abyme qui se mettent en place. Donc là il y a une invention en quelque sorte plastique de la part de Quirico qui est fascinante et qui renvoie à la figure d'Homère, qui renvoie à celle du devin Tirésias aussi, qui est un
Tirésias
personnage
qui a été aveuglé en échange de son don
de prophétie. De prophétie, et qui est un personnage qui va nourrir très directement l'univers d'Apollinaire avec les mamelles
de Tirésias,
c'est le fameux grand chahut qui suivra d'un mois et demi celui de Parade, donc en juin 1917 à Paris. Donc vous voyez, on tourne autour de ces
figures. C'était des costumes de Picasso aussi ou...
Non, c'était Serge Ferrat qui avait créé les costumes, mais on est dans des univers assez proches entre Parade et les mamelles de Tirésias, en tout cas avec une volonté réformatrice du spectacle, et du spectacle conçu comme œuvre d'art totale, là, absolument totale.
Vous parliez de Tirésias, c'est aussi Homère, vous l'avez rappelé, Milton peut-être également
aussi,
le poète aveugle. Donc l'idée, c'est que l'aveuglement, on sentirait l'idée que l'aveuglement renvoyant est prophétique.
Oui, et que c'est l'idée du regard intérieur, au fond. C'est ça, au fond, qui peut être se jouer dans ce tableau, et que le poète sait. Le poète sait fondamentalement reconnaître notamment le créateur, c'est l'identifier, et voilà, on peut penser que c'est autour de toutes ces idées que tourne
Alors,
le tableau.
Comme vous le rappeliez, donc le mythe de ce tableau ne vient pas seulement de cette représentation du poète, mais plutôt de l'ombre qui est au-dessus, cette sorte de silhouette étrange avec un nez un petit peu déformé.
On a beaucoup convoqué la question des animations de foire, des stands de tirs et de cibles dans les foires, et que c'était peut-être quelque chose qui venait de cet univers-là. On a parlé aussi de marionnettes javanaises aussi, enfin de
il voilà, en avait une collection dans son atelier.
Absolument.
Enfin,
donc c'était tout à fait possible que ce soit
Un
une sorte de mélange en fait de toutes ces références, de toutes ces silhouettes différentes. Alors ce qui a fasciné surtout et qui a beaucoup fait pour la fortune critique et postérieure du tableau, c'est le fameux cercle blanc qui pointe la tempe d'Apollinaire 2 ans avant que Apollinaire soit blessé par un éclat d'obus sur le front. Alors simplement, il n'est pas blessé le même côté. Il sera peu importe.
C'est ce que Breton appellera un hasard objectif.
Absolument. Voilà, on est absolument déjà en plein surréalisme. C'est-à-dire que le tableau pose en fait complètement les jalons de l'image surréaliste. Bien avant que le surréalisme ne soit, si je puis dire, manifesté, proclamé.
Mot inventé par Apollinaire 10 ans avant le surréalisme.
10 ans avant le surréalisme, dans la préface qu'il donne pour le programme de Parade. Alors c'est surréalisme en 2 mots avec un tiré. Donc c'est quand même là aussi assez fascinant. Enfin voilà, on voit une espèce de galaxie qui se met en place.
Quand on voit le personnage quand même qui soutient le cubisme, qui invente l'orphisme, et le mot orphisme, et le mot surréaliste 10 ans avant, et qui découvre, qui s'enchaîne. Chante de Marcel Duchamp, qui aime Picabia. Enfin, quel monde !
Oui, c'est un monde extraordinairement riche.
Qui invente le terme art premier.
Qui invente le terme art premier et qui l'un des premiers à porter sur l'art africain un regard véritablement esthétique.
Qui s'est battu pour que ça soit au Louvre.
Absolument.
Que les arts premiers soient au Louvre.
Qui lance cet appel dès 1909 pour l'entrée des arts africains.
Il faudra attendre 80 ans, peut-être 90 ans,
à peu près pour que ça se fasse.
Alors je vous propose d'écouter, il s'est passé quelque chose de normal et d'étrange, c'est qu'il y a eu un échange, c'est-à-dire que Quirico a demandé à Apollinaire, en échange du tableau, un poème. Écoutons-le.
Absolument.
J'ai bâti une maison au milieu de l'océan. Ses fenêtres sont les fleuves qui s'écoulent de mes yeux. Des poulpes grouillent partout où se tiennent les murailles. Entendez battre leur triple cœur et leur bec cogné aux vitres. Maison humide, maison ardente, saison rapide, saison qui chante. Les avions pondent des œufs. Attention, on va jeter l'encre. Attention à l'encre que l'on jette. Il serait bon que vous vinssiez du ciel. Le chèvrefeuille du ciel grimpe, les poulpes terrestres palpitent. Et puis, nous sommes tant et tant à être nos propres fossoyeurs. pâle poulpe des vagues crayeuses, ô poulpe au bec pâle. Autour de la maison, il y a cet océan que tu connais et qui ne se repose jamais. Guillaume Apollinaire, Océan de terre, Lueur des tirs, Calligramme, poème de la paix et de la guerre, 1913-1916.
Les allitérations d'Apollinaire dans ces poulpes au bec pâle et les poulpes de vagues crayeuses, c'est extraordinaire. C'est vraiment un poème de toute beauté. Mais donc, dans cet échange, au fond, c'est l'échange de deux chefs-d'œuvre, certainement, mais il n'y a pas une relation de signification entre les deux.
Non. C'est plutôt de l'ordre de l'équivalence, en quelque sorte, mais là encore, de correspondance, pour reprendre un terme baudelairien. Et c'est ça qui est très passionnant, parce que d'un certain point de vue, on peut voir l'effet de métonymie, si vous voulez, des objets que l'on trouve chez de Quéricault et qui va tellement hanter Breton pour sa, dans sa vision de ce que peut être une peinture surréaliste. C'est un peu ça aussi qu'on voit se mettre à l'œuvre dans l'écriture d'Apollinaire. Enfin, ces enchaînements et ces rapprochements incroyablement nouveaux, là, pour prendre un vocabulaire qui lui est cher. Donc là, il y a de l'ordre de l'équivalence, même si effectivement on n'est pas dans la référence littérale de l'un à l'autre. C'est pas ça qui intéresse, très clairement.
Alors, quand même, André Breton, on en a parlé un petit peu au début, il faut y revenir parce que la relation avec Quéricault va être étrange, mais la relation, par contre, avec Apollinaire sera immédiatement fascinée. Oui. Je crois qu'André Breton le rencontre quand il est malade.
Absolument. Il va le voir au Val-de-Grâce juste après sa trépanation, puisqu'il est donc blessé, comme on l'a dit, sur le front en mars 1916. Donc, il est trépané au Val-de-Grâce et puis hospitalisé ensuite à l'hôpital italien. Et Breton vient le voir dès le début de cette hospitalisation, ne le connaît pas, se présente à lui, non pas en tant que médecin, mais vraiment en tant qu'admirateur du poète. Et là commence une fréquentation extrêmement forte des deux hommes. Breton sera un assidu du boulevard Saint-Germain dans les deux dernières années de la vie d'Apollinaire. Et il y a l'idée un peu finalement d'un passage de relais, presque d'une génération à l'autre, quelque chose qui se met en place, Apollinaire comme passeur au fond de cette modernité vers cette jeune génération surréaliste montante, sachant qu'on a aussi le phénomène Dada exactement au même moment, avec lequel d'ailleurs les relations sont assez complexes.
Quand Apollinaire Zara, a conseillé, voilà, je crois, à Paul Guillaume de ne pas...
Et quand Zara... contacte Apollinaire pour qu'il intervienne, pour qu'il donne des textes pour le cabaret Voltaire à Zurich. On sent qu'Apollinaire est un tout petit peu à distance et que probablement d'ailleurs son propre engagement dans la guerre fait créer aussi une distance par rapport à cette génération.
Oui, parce que sa position politique est le contraire en fait.
Lui
défend la nation, on peut dire.
Un attachement à la France qui est extrêmement sincère, qui est aussi dictée par certaines circonstances aussi parce que il cherche à avoir cette nationalité française et que son engagement va certainement aider à cette forme de consécration pour lui. Et il a beaucoup de mal avec la réaction, déjà cette réaction extraordinairement politique et créatrice évidemment de Dada, ça, et on voit qu'il y a un pas qu'il ne franchit pas. En revanche, avec Breton, les choses se mettent, j'allais dire, plus naturellement en place. Et Breton ne cessera de dire et de redire, et on l'entendait dans le premier témoignage que vous avez passé, combien il considérait que Apollinaire avait eu une place centrale.
Alors il y a deux choses que Breton va découvrir dans l'appartement d'Apollinaire. C'est le tableau, effectivement, dont on vient de parler, le portrait de Guillaume Apollinaire, avec ce personnage cible, mais aussi cet étrange bas-relief. D'ailleurs, le personnage blanc, en marbre blanc, donc qu'on peut associer à Orphée, parfois a été considéré comme Cavour.
C'est la part politique en quelque sorte de la, pour reprendre les termes d'Apollinaire, de la peinture de Quéricault, qui convoque souvent une forme de statuaire et avec des références la statuaire publique italienne. Pas si facile que ça à décrypter, très honnêtement, pour les non-initiés, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Peut-être pas très probante dans ce cas-là, parce qu'on voit bien, pour plaider en faveur plutôt d'Orphée, c'est que précisément l'association du poisson et de la conque renvoie évidemment la conque en forme de lyre, et le poisson, on peut penser évidemment à l'effet charmeur d'Orphée, des poissons qui sortent de l'eau pour écouter
Orphée. Mais, cela dit, il y a vraiment une création de une symbolisation qui ressemble à celle du rêve. C'est un feuilleté. Totalement. C'est totalement. Jamais... Parce que pour Cavour, on pourrait dire... Moi, je me suis aperçu que les armes de Cavour étaient trois coquilles.
Ah bah oui.
Donc tout d'un coup...
Oui, mais...
et cette superposition, c'est vraiment la condensation. Quoi.
Totalement. C'est... Totalement. Voilà. L'association de symboles aussi. Là encore, cette métonymie des objets. C'est-à-dire que on produit un certain nombre d'objets associés... produisent un autre sens,
enfin d'autres vous amènent une autre féminin,
réalité,
enfin,
voilà absolument. Donc, et c'est ça qui va tant passionner effectivement Breton. Alors effectivement Breton découvre le tableau chez Apollinaire, donc sans doute assez tôt.
Et donc il découvre Quirico et s'enthousiasme.
Il s'enthousiasme. Alors il réécrira un tout petit peu l'histoire par la suite dans le. Voilà, différents textes consacrés à la peinture surréaliste. En expliquant qu'il avait découvert la peinture de Quirico alors qu'il prenait le bus, en l'apercevant dans une vitrine de la galerie Paul Guillaume vers 1919. Évidemment, c'est faux. C'est bien dans l'appartement d'Apollinaire qu'il est mis tout de suite en contact avec la peinture de Quirico. Mais ça, c'est une façon pour Breton de réécrire les choses après la disparition d'Apollinaire et donc de s'approprier et de faire rentrer très directement l'univers de Quirico dans le surréalisme en gommant un peu l'épisode d'Apollinaire.
Il le fera sortir assez brutalement plus tard.
Et il le fait sortir tout aussi brutalement dès l'inflexion plus classique de Quirico. Dès qu'il quitte un peu cet univers métaphysique, il n'intéresse plus Breton. Il est mort d'un certain point de vue pour le surréalisme, mais ça arrange Breton aussi. Enfin, c'est une construction, c'est une mythologie en soi.
Absolument. Alors, il y a une autre chose que Breton va découvrir chez Apollinaire, c'est l'appartement d'Apollinaire. Oui. Et on a l'impression que cet appartement l'a inspiré. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Oui, alors on a une bonne documentation sur cet appartement qui a été filmé d'ailleurs à la fin des années 50 et largement photographié puisque en fait il a été figé par la veuve d'Apollinaire, par Jacqueline, qui a gardé pour ainsi dire l'appartement intact dans l'état où il était à la mort d'Apollinaire le 9 novembre 18.
Il était où son appartement ?
Alors cet appartement était 202 boulevard Saint-Germain, à l'angle de la rue Saint-Guillaume, au cinquième étage, sous les combles, une série de petites pièces étroites. Donc, qui ont été fréquentés par tout ce qui a pu compter en matière de poésie et de peinture dans ces années 1910. Breton est fasciné par le lieu. Alors, le lieu est en fait un musée imaginaire. C'est-à-dire qu'on est environné par les livres, par les objets africains collectionnés par Apollinaire, par la peinture Picasso. Sans doute à la mort d'Apollinaire, il y a à peu près une centaine d'œuvres, tout média confondu, de Picasso dans l'appartement. Donc c'est une collection absolument... Avec celle de Gertrude Stein, c'est pratiquement la plus belle collection d'art moderne dans ces années-là à Paris.
Effectivement, il y a aussi des marionnettes, des archivenko.
Il y a des marionnettes, tout se mélange.
Des encriers stupides.
Des objets complètement du haut chiné à droite à gauche, les bouquins très peu chers flânés chez les bouquinistes, cette littérature populaire qu'il a tant aimée aussi et qu'il va retrouver d'ailleurs dans la forme cinématographique. Voilà, il y a tout ça. Et ça, je pense que pour Breton, c'est absolument essentiel et on le retrouvera finalement presque cité tel quel dans l'appartement de la rue Fontaine, le fameux mur d'André Breton.
Alors, puisque nous en parlons, écoutons donc un texte d'André Breton qui nous décrit le débordement d'objets dont vous venez de parler, Laurence, objets en tout genre qui saturaient l'espace exigu et labyrinthique du dernier appartement où le poète habita. Et je dois dire, Laurence, que j'adorerais un jour, mais je n'ai plus possible, mais si on avait pu conserver ça, j'aurais adoré les voir ensemble.
Il a été question, paraît-il, dans les années 60 de le transformer en musée, et puis c'était trop petit, au cinquième étage, sans ascenseur, et l'idée a été abandonnée, mais...
Imaginez les deux murs Breton-Apollinaire, ce serait merveilleux. Ça me fait rêver. Écoutons donc André Breton décrire ce mur.
L'appartement était exigu, mais d'un tour accidenté. Il fallait se faufiler entre les meubles, supportant nombre de fétiches africains ou polynésiens mêlés à des objets insolites. Et les rayons ou les piles de livres à couverture jaune d'alors, comme il a si bien dit, simulait des mottes de beurre. Au mur, qui était assez bas, des tableaux suspendus, presque sans intervalle, étaient autant d'échappées sur des mondes aventureux ou inconnus. Je revois un tableau de l'époque bleue de Picasso, figurant un homme et une femme nus, enlacés sur un lit. Un ou deux beaux derains, des toiles éclatantes du rayonniste russe Larionov et surtout deux Quirico de la contemplation desquels, même devisant avec le maître de ce logis et bien d'autres, qui se passaient d'assises matérielles, je ne pouvais jamais tout à fait m'abstraire, tant ils reculaient, tant ils approfondissaient l'horizon mental. Apollinaire gardait à sa portée un petit nombre d'objets prenant le goût à rebrousse-poil. Je me souviens du terrible encrier en bronze doré, effigie et souvenir de la basilique du Sacré-Cœur. André Breton, 1970.
Est-ce que vous pensez, Laurence Descartes, qu'il y avait une volonté de témoignage ou de faire œuvre dans ce rassemblement?
Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a, il y avait une certaine mise en scène, au fond, de tout ça.
Apollinaire l'a fait photographier si souvent.
Voilà. Et puis, Apollinaire recevait dans ce lieu qui a été un vrai laboratoire, j'allais dire, d'idées, de création. On parlait des mamelles de Tirésias. C'est des choses qui se sont conçues dans l'appartement du boulevard Saint-Germain. Donc, je crois que c'est un manifeste. C'est une forme de manifeste pour Apollinaire. Et pour nous, quand on a travaillé, pour toute l'équipe qui a travaillé sur cette exposition, on a beaucoup réfléchi à ces images, parce que moi, elles me fascinent, et que je ne pouvais que les associer à Breton, et que là, on se dit, il y a un laboratoire, en quelque sorte, du XXe siècle, qui est à l'œuvre, à une petite échelle, enfin, c'est un lieu extraordinairement petit,
c'est
modeste. Étrange,
cette petite échelle, c'est l'élargissement de
voilà.
La pensée.
Et c'est là où tout est possible, c'est le lieu de tous les possibles, ouais. et de tout ce qui va advenir, et ça, je trouve ça absolument fascinant. Et là, on est dans la tête d'Apollinaire, d'un certain point de vue.
Il faut se rendre compte que... Donc, est-ce que Apollinaire avait créé en quelque sorte le galeriste devenu fameux Paul Guillaume?
Oui.
On peut dire que c'est une invention de lui.
C'est un peu une invention, oui. En tout cas, il fait son éducation, très clairement.
Oui, Paul Guillaume était assez bon en art africain parce qu'il travaillait dans un garage.
Absolument, qui importait du caoutchouc, un garage de l'avenue de la Grande Armée. Et là, on est dans les années 1909-1910. Et des objets africains arrivent avec les cargaisons de caoutchouc. Paul Guillaume, qui vient de nulle part, hein, qui est un garçon qui n'a pas d'éducation, est absolument fasciné par la beauté de ces objets et en met quelques-uns en vitrine du fameux garage. Et c'est comme ça qu'Apollinaire découvre en quelque sorte Paul Guillaume, par le biais aussi du marchand Brunner, qui est un des grands marchands, un des premiers grands marchands d'art africain et grand collectionneur aussi. Et c'est autour de l'art africain que Paul Guillaume et Apollinaire se rencontrent. Et que là commence effectivement l'éducation, je veux dire l'initiation en quelque sorte de Paul Guillaume à l'art moderne. Et c'est là que évidemment Apollinaire va être absolument décisif, va en quelque sorte le conseiller dans le choix des artistes qu'il devra exposer, qu'il devra prendre sous contrat. Fondamental pour De Quéricault, là on l'a dit tout à l'heure, mais très important aussi pour des artistes comme Larionov, Goncharova. C'est la première exposition de la Galerie Paul Guillaume.
C'est extraordinaire quand on voit ces noms qui ont été finalement quasiment redécouverts il y a 25 ans, Larionov et Goncharova,
bien sûr.
Alexandra Exter, tous ces personnages essentiels. Ils le savaient, quoi.
Ils étaient là, et ce qui est fascinant aussi, c'est de voir le bouillonnement de cette scène incroyablement internationale aussi,
oui, très cosmopolite.
Et ça, c'est très Apollinaire aussi, puisqu'il est aussi l'homme de ce cosmopolitisme qui va célébrer dans un poème sublime aussi dédié à Chagall, à travers l'Europe, qui célébrera cette vision culturelle européenne avec ses artistes et ses écrivains qui n'arrête pas de voyager et d'échanger finalement les uns avec les autres.
Il faut dire que lui-même s'appelait Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinare de Kostrovitsky.
Né à Rome, polonais. Mais sujet russe pour les autorités françaises. Sur ses papiers, il y a marqué sujet russe.
Formidable, mais il représente ce qu'il y a, à mon avis, ce que l'Europe a de mieux. Et qui peut nous servir encore d'espoir. Un petit mot quand même sur un voyage étrange et important, je crois, qu'a fait Apollinaire avec Marcel Duchamp et Picabia.
Oui, le fameux road trip vers le Jura.
Dans le Jura, voilà.
Ah oui, c'est une aventure, donc un voyage en automobile, ce qui à l'époque n'était pas rien, surtout sur des distances relativement longues, et qui est une espèce de voyage initiatique, effectivement, de tous ces artistes.
Pour tous,
oui. Une espèce de moment mythique, là aussi, de l'art moderne. Et c'est à l'occasion à la fois du voyage et du séjour, dans cette partie frontalière de la France et de la Suisse, que Apollinaire écrira le Zone. Zone, c'est la zone frontalière, en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est un moment d'inspiration collective assez passionnante, et où on voit là aussi cet effet de laboratoire, en fait, qui peut y avoir entre tous ces artistes, et cette connivence aussi extraordinairement forte. Enfin, là, tout d'un coup, ils sont sur la même longueur d'onde, et ça irrigue les univers de chacun, en quelque sorte.
Il y a une chose qui me fascine, c'est quand même l'incroyable ouverture d'esprit d'Apollinaire. C'est que ces artistes-là commencent à peine, Picabia, on l'a vu comme impressionniste, mais commencent à peine comme grand artiste moderne.
Oui, oui.
Et il a tout de suite senti
la chose. Il l'accompagne tout de suite. Il croit en lui, comme il croit en Duchamp. Alors ça, Duchamp, c'est...
Il lui annonce qu'il va devenir un grand artiste populaire.
Absolument, qui va être un artiste absolument majeur. Et il écrit ça au moment où Duchamp renonce, entre guillemets, à la peinture. Et il écrira sur l'urinoir.
Une défense de Hermut.
Et de Hermut, ne sachant probablement pas qu'il s'agit de Marcel Duchamp. Et en disant, l'artiste qui a fait ça va sans doute être très très important. C'est fondamental.
Le Bouddha dans la salle de bain. C'est ce goût des surprises dont vous parliez tout à l'heure.
Absolument. Je crois que...
C'est son esthétique.
De succession d'émerveillements, pour reprendre sa devise, j'émerveille et je suis émerveillé, au fond. C'est ça aussi qui est en jeu.
Je me souviens d'un petit texte qu'il avait fait. C'est des textes parfois de Kathleen qui faisait dans ses journaux. Et il parle d'une sculpture africaine, le dieu goût d'Akati Ekpikando. Oui. Et il dit... J'adore ça, parce qu'il dit l'objet d'art le plus imprévu. Et cette idée d'une œuvre imprévue,
voilà,
ça change tout.
Qui vous transforme, qui vous déstabilise et qui vous séduit. Et en plus, il ne se trompe pas, parce que le dieu goût en question, c'est quand même un des chefs-d'œuvre du pavillon des sessions au Louvre aujourd'hui. Oui, enfin, son œil était quand même incroyablement sûr. Parce qu'au milieu de tout l'éclectisme qu'on mentionnait, il pointe à chaque fois l'objet le plus intéressant, l'artiste le plus novateur, le plus prometteur. Il ne se trompe pas. Ça, c'est quand même là aussi une chose qu'il faut souligner.
Alors, il y a autour de Marcel Duchamp deux personnages qui apparaissent dans l'exposition et qui sont, dans la vie d'Apollinaire, qui l'amènent et qui sont des personnages très inattendus et très importants. C'est Raymond Roussel et Jean-Pierre Brisset. Je ne savais pas que c'était Apollinaire qui avait amener Marcel Duchamp voir la représentation des impressions d'Afrique.
Et c'est un moment très très important. Alors là aussi, c'est un peu cet effet de ce que je disais, de passage de relais d'Apollinaire d'une génération à l'autre. Il pressent que tout ça est très important, et il y a un effet d'initiation, en fait, qui joue dans ces années absolument décisives en pleine Première Guerre mondiale. Là, on est vraiment ça, c'est fascinant, et c'est une chose qui est relativement peu connue. Alors,
et ça va changer l'œuvre de Marcel Duchamp, cette découverte de Raymond Roussel, c'est
fondamental.
Explosion.
On le sait que c'est absolument fondamental. Alors ça ne fonctionnera pas avec toute la génération montante. On sait que, par exemple, Vacher est très opposé à Apollinaire. Enfin, là, il y a une prise de position extrêmement dure, y compris au moment des mamelles de Tirésias. Enfin, il y a des phénomènes de rupture. Donc, il ne faut pas non plus idéaliser cette...
J'allais le faire.
Voilà.
M'enthousiasme, vous écoutant.
Apollinaire inspire l'enthousiasme, mais néanmoins, il y a quelques récalcitrants. Vacher en fait partie.
Et alors, un autre personnage qui apparaît dans la défense et l'exploration d'Apollinaire, une sorte de douanier Rousseau de la littérature, c'est Jean-Pierre Brisset.
Oui, absolument. Là aussi. Qu'est-ce que
vous pouvez nous dire à nos auditeurs à peu près de qui il s'agit?
Oh, c'est un peu...
La grammaire logique.
Oui, c'est ça, voilà. Mais là aussi, c'est une remise à plat, en fait. là pour le coup de la grammaire et des formes, c'est-à-dire une façon de pouvoir là encore réenvisager une création qui soit absolument moderne, contemporaine, sur des bases complètement neuves. Là encore, neuves. Donc je crois que c'est ça qui intéresse Apollinaire, c'est encore cet effet de nouveau, de modernité, et qui fait que il n'a pas de barrière, il n'a pas de préjugés. Donc oui. il attrape. Tout ce qui l'intéresse en quelque sorte, et c'est Brisset l'intéresse pour ces raisons-là, évidemment, pour cette remise à plat formelle.
Alors, la guerre arrive, il est engagé, vous le rappeliez tout à l'heure.
Il s'engage, il fait tout pour s'engager.
Il envoie des lettres, des poèmes, avec une délicatesse folle, parce qu'il ne s'appesantit pas sur l'horreur. Il parle de la beauté, de ceci. Enfin.
Il fait même preuve d'un humour invraisemblable, enfin, au milieu de cette boucherie de ce charnier absolu. Et il reste créatif, puisque une très grande partie quand même des calligrammes sont aussi élaborés sur le front. On présente dans l'exposition une des œuvres sans doute les plus émouvantes, qui est un carnet d'artilleur, puisqu'il était dans l'artillerie, dans lequel il dessine, et là c'est vraiment un carnet manuscrit, un certain nombre donc de calligrammes, de poèmes, d'idéogrammes lyriques, pour reprendre la première expression donnée au calligramme. Et c'est assez bouleversant de penser que au milieu des tirs d'obus, Apollinaire, quand
parle
il a
de
deux
de
minutes,
beauté, ouais.
Essaye de s'échapper ou de transcender aussi cette. Et on a parfois fait d'Apollinaire un chantre de la guerre à cause du fameux vers « Ah que la guerre est jolie ». Bon.
C'est pas ça.
Et il faut voir d'ailleurs la fin du poème, qui est absolument pas une apologie de la guerre. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il voit le désastre absolu. Il voit d'ailleurs potentiellement l'Europe qu'il a tellement aimée sombrer dans ce chaos. Je pense qu'il le pressent et qu'il est d'autant plus en réaction et d'autant plus décidé à continuer à créer et à inventer autant qu'il le pourra.
Surtout que c'était des moments. Alors il y a cette phrase aussi, j'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. C'est extraordinaire. Dans le catalogue que vous avez fait, il y a un texte très beau de Jean-Jacques Lebel sur cette aventure, le carnet de l'artilleur. C'est fantastique. Mais effectivement, on sent qu'il y a une délicatesse de ne pas inquiéter ceux à qui il envoie ses missives.
Il parle très peu de ses malheurs.
Il y a des histoires d'amour. Voilà. Ça commence à Nîmes, avec Lou, ça continue avec Madeleine.
Mais ça n'arrête pas. De toute manière, Apollinaire et les femmes, c'est un sujet en soi de absolument fascinant. Mais c'est quelqu'un qui célèbre la vie aussi en permanence. Donc il ne cesse pas, même s'il est au front, il ne cesse pas d'avoir ses passions et il écrit effectivement avec beaucoup de délicatesse à l'égard envers les artistes qu'il aime aussi, en les rassurant à la fois. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et même lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est hospitalisé, c'est quelqu'un qui reste d'une pudeur incroyable sur sa situation. Il est quand même très très diminué physiquement après cette trépanation, et pour autant il ne se plaint jamais, il continue à collaborer avec les uns et les autres, à échafauder des projets.
On lui demande des préfaces qu'il fait sans doute dans un état de fatigue
terrible, il ne se plaint pas, il monte les mamelles de Tirésias, il continue, il écrit pour la préface de Parade, il met au point Calligramme, l'édition de Calligramme, enfin bon, voilà. Bref, il traverse la guerre, il n'en sort pas indemne, à l'évidence, mais il la traverse assez magnifique.
On sent qu'il y a une ambition quand même d'être le cristalliseur de toute une époque. On le sent qu'il il veut le.
Bah, c'est la fameuse formule du frère de Giorgio de Chirico, Alberto Savigno. Vous êtes un homme époque, et qui lui va tellement bien. Il cristallise ses 15 premières années. Alors il y a évidemment une grande question, c'est de savoir qu'est-ce que serait devenu Apollinaire s'il avait survécu.
Aurait été dadaïste peut-être.
Aurait-il été dadaïste, surréaliste? Aurait-il eu une grande querelle avec André Breton? Probablement.
Sûrement, probablement. Je pense qu'il aurait pu gêner André Breton.
Oui. Ça, on peut le penser. Enfin, là, on se dit qu'il y a évidemment des choses assez, assez passionnantes à échafauder, à imaginer.
Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que il y a une période dont vous avez parlé qui est passionnante, c'est sa relation avec Picasso, effectivement, qu'il appelait l'oiseau
du Bénin.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors c'est en fait lié à une
c'est
sculpture.
Son surnom dans tout voilà, le travail qui c'est l'oiseau du Bénin.
L'oiseau du Bénin. Alors on revient à cette passion pour l'art africain et c'est une sculpture en fait qui était dans l'appartement d'Apollinaire et qui est présentée d'ailleurs, qui a été retrouvée pour l'exposition, qui est toujours en collection particulière et qui est une très jolie sculpture d'ailleurs avec un oiseau qui se saisit d'un poisson entouré par deux serpents qui convoitent la même proie. Et c'est donc une pièce très délicate, très charmante, et qui est une espèce de nom de code, au fond, pour initier, pour Picasso, et que tout le monde reprend, Cocteau
mais
reprend
est-ce que vous
aussi
pensez qu'en, est-ce que vous pensez qu'en surnommant Picasso l'oiseau du Bénin,
oui.
il voudrait dire que lui aussi, Picasso, pique à droite et à gauche
pourquoi
les petits
pas,
poissons et les
pas.
Petits serpents.
Et de plus gros poissons et de plus gros serpents aussi, mais... Peut-être, on pourrait imaginer que c'est un peu une image de l'éclectisme aussi, de la boulimie aussi de Picasso, la boulimie formelle, esthétique de Picasso, en tout cas de sa curiosité, ça on peut tout à fait le voir comme ça. Mais en tout cas, c'est un objet très symbolique de cette relation amicale qui a été si riche pour les deux, si fondamentale.
Alors puisqu'on parlait puisque notre prétexte passionnant est le grand Quirico. L'alcool, le recueil alcool de 1913, c'est ça,
1913,
il était 1913.
Oui, ouais.
Je crois était prévu avec un frontispice de Quirico interprété par Roy.
Oui, absolument, qui était le portrait, en fait. C'était le portrait, donc il y a
le portrait prémonitoire dont nous avons parlé.
Dont nous parlons.
Et finalement, c'est Picasso qui a fait le portrait.
Et c'est finalement Picasso qui le fera. De même que pour Caligramme, c'est Picasso qui finalement donnera la figure presque dans médaille à la Pisanello d'Apollinaire, tête bandée.
Alors là, oui, c'est un Picasso très néoclassique.
Voilà,
ça, un gresque.
Un gresque, alors que l'homme à la guitare, puisque c'est de cette figure-là que dérive ce projet de frontispice. Et là, un Picasso beaucoup plus cubiste et une espèce de portrait, là aussi, d'Apollinaire, un peu sans doute un peu crypté, un peu complètement, si je puis dire, mêlé de l'univers cubiste de Picasso. Donc, alors, il y a comme ça régulièrement des projets, des croisements, si vous voulez, entre l'univers de Picasso et d'Apollinaire.
Est-ce que vous croyez, pardon de vous interrompre,
oui,
mais est-ce que vous croyez que... Picasso a su regarder et peut-être prendre quelque chose à Quirico. Parfois, il y a des ombres comme ça qui reviennent chez Picasso un peu plus tard. On a l'impression
oui,
que
c'est
ça...
intéressant. Non, j'y avais pas pensé, mais c'est pas impossible qu'il ait. En tout cas, il a certainement connaissance de la peinture de Quirico à ce moment-là.
On voit des portraits ensemble. Autour de Marie Laurencin.
C'est pas impossible qu'il y ait effectivement à un moment donné une façon de là aussi de s'emparer ou d'interpréter certaines trouvailles de Quirico.
Quirico pour Apollinaire. Comme pour, ça sera pour Breton au début, c'est vraiment la prééminence du rêve, non?
Absolument. C'est le retour du mythe, le grand retour du mythe, l'éternel retour du mythe et du rêve, de l'inconscient aussi. Hein. C'est aussi l'aspect freudien de la chose aussi qui va tant passionner après les surréalistes. Donc c'est le surréalisme avant la lettre, c'est-à-dire quelque chose qui décolle complètement d'une interprétation littérale de la réalité qui n'intéresse pas Apollinaire. À l'évidence, si on doit définir une esthétique d'Apollinaire, elle est très, très largement en réaction contre ça. Elle cherche d'autres de modalités d'expression, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a cet immense coup de cœur pour le Quirico, le De Quirico métaphysique, parce que tout d'un coup, quelque chose de nouveau qui ne doit rien qu'à son propre univers d'un certain point de vue, et qui permet de dire des choses en se coupant complètement de la réalité.
C'était donc le totalement imprévu que recherchait Apollinaire dans son regard si aigu. Merci Laurence Descartes.
Merci Jean.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé ensemble l'extraordinaire portrait dit prémonitoire de Guillaume Apollinaire, réalisé vers 1914 par l'artiste Giorgio De Quirico.
Nous étions en compagnie de Laurence Descartes, directrice du musée de l'Orangerie et commissaire de l'exposition Apollinaire, le regard du poète, dans laquelle vous pouvez aller admirer cette œuvre dont nous avons parlé. Et l'exposition a lieu jusqu'au 18 juillet au musée de l'Orangerie à Paris. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attachée d'émission et responsable du site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes Soizic Fonjalaz. À la technique Pascal Bénard. Réalisation Alexandre Fougeron. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et de Jean Deloisy.
Before you go, babe. Until you